Voilà, bonjour à toutes et à tous. Dans Romains 15, 13, il nous est dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est cela qu'on souhaite ce matin, hein, pour chacun de nous, que l'Esprit puisse nous conduire et que nous puissions, comme on l'a vu ce matin, que nous puissions témoigner de Jésus-Christ. Car on vit dans un monde qui est contre Jésus-Christ. Hein? On l'a vu dans différentes déclarations qu'il y a eues. Hein? Mais voilà, nous devons témoigner. Alors d'abord, une petite question. Qui se rappelle de quoi parlait Jean-Pierre hier ? Pas hier, dimanche dernier. Ayez l'amour les uns pour les autres. J'aimerais continuer ce sujet, mais je ne vais pas vous parler d'avoir l'amour, mais je vais vous parler de l'amour. L'amour tout court. Et on va voir la signification de ce mot, car c'est très important. Amour. Hein? Et tout ça, on va le voir dans le chapitre qui concerne l'amour. Quel est le chapitre qui concerne l'amour dans le Nouveau Testament? Pardon? 1 Corinthiens 13. Vous voulez parler de l'amour? 1 Corinthiens 13. C'est là qu'on trouve tout. L'amour, hein, c'est le plus grand, c'est le plus puissant message que Dieu nous a donné. Ce chapitre-là, il a été appelé les cantiques des cantiques du Nouveau Testament. Ou l'hymne à l'amour. Vous savez qu'il y a un grand chant, hein, l'hymne de l'amour. Hein, exactement. Hein. Et ce matin, on va voir la définition de cet amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Oubliez ce que la société, ce que le monde, il entend pour le mot amour. Nous allons voir ce que Dieu dit de l'amour. Premièrement, qu'est-ce que c'est que l'amour? Voilà une question fondamentale. Cet amour tant vanté, tant adulé, tant recherché, le plaisir. C'est cette société qui ne cherche que ça. Il y a dans des différentes Bibles, il y a une Bible qui, au lieu de mettre les mots amour, il met les mots charité. Mais ça ne correspond pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit aujourd'hui charité, on pense à faire l'aumône. Le mot amour, c'est beaucoup plus ferme, plus complet. Et nous allons voir toutes ces choses-là. Hein? En grec, parce que le Nouveau Testament, il est écrit en grec. En français, il n'y a qu'un seul mot. Il y a amour. Voilà, il n'y en a pas d'autre. Mais dans la langue grecque, elle est vaste, hein, et c'est bien avoir un dictionnaire grec. Je ne parle pas le grec. Hein. J'ai un dictionnaire et je regarde. En grec, il y a 4 mots pour définir l'amour. Mais d'abord, avant de vous donner la définition, nous allons lire le chapitre 13 des Corinthiens. On va lire du premier jusqu'au verset 8. Chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tout mystère, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Mais l'amour, il ne passera pas. Dans ce chapitre, ce verset qu'on a lu, il y a le mot amour. En grec, c'est le mot agapé. Et comme je vous disais, en grec, il y a quatre mots qui définissent l'amour. Il n'y a pas comme en français ou en italien, partout, hein, le mot amour englobe tout. En grec, il y a quatre mots. On a vu le mot agapé. Et voilà les trois autres mots. C'est le mot Eros. Et ça veut dire qui est l'amour physique. C'est de là que vient le mot érotique, l'amour sexuel. Il y a aussi le mot philia. Philia, c'est l'amour fraternel. Hein, d'ailleurs, il y a une église dans l'Apocalypse qui a appelé Philadelphie, c'est l'amour des frères. Il y a un troisième mot, hein, c'est le mot storgé, que c'est l'amour familial. Familial. Et ensuite, il y a c'est le mot agapé. Mais ces trois mots-là, ils sont liés à celui ou celle qui les reçoit, c'est-à-dire eros, philia et storgé. Ça concerne ceux qui le reçoivent. Tandis que le mot agapé, c'est le mot qui concerne l'amour qui donne sans mérite, qui donne sans attendre un retour. Voilà pourquoi dans ce chapitre-là, c'est le mot agapé qui est utilisé, hein? Le mot agapé, il est employé par Paul, c'est celui qui reçoit cet amour qui ne mérite pas. C'est un peu comme la grâce. Et c'est ça que Paul il nous montre. L'amour, c'est l'ingrédient dont nous avons besoin pour que notre vie, pas seulement notre vie en tant que chrétien, mais dans la société, nous puissions avoir une vie agréable, pas seulement à Dieu, mais aussi vis-à-vis des autres. Parce que les trois autres mots, eros, philia et storgé, on peut aussi les avoir, nous, qui avons l'amour de Dieu en nous, le mot agapé. Parce que nous devons les utiliser, eros, hein, c'est l'amour érotique. Ceux qui sont mariés, Dieu il nous a créés comme ça, il faut qu'il y ait l'amour érotique, eros. Il y a aussi le mot philia, l'amour fraternel. Et il y a aussi l'amour storgé, que ça veut dire l'amour familial. Mais ce qui compte, c'est l'amour agapé. Mais encore une fois, les trois autres, ils se mettent ensemble. Et pour que cet amour agapé, il puisse donner des bons résultats, il faut que nous soyons attentifs à la mettre en pratique. En lisant ces versets de 1 à 8, nous pouvons nous apercevoir que personne ici-bas, il a cet agapé. Pas qu'il ne l'a pas, mais qu'il ne peut pas la mettre en pratique. Qui c'est qui représente cet amour agapé dans ce chapitre 13? Mais c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a manifesté tout l'amour. Donc, c'est à cela que nous devons. Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est celui qui donne. C'est celui qui donne sans recevoir. C'est celui qui donne à celui qui ne mérite pas. Et lorsqu'on dit aimer, ce n'est pas retirer du plaisir d'une personne, mais ça veut dire vraiment l'avoir constamment dans notre propre cœur. Faire tout pour que cette personne, il puisse en retirer de la joie, de la paix et du repos. Il y a Platon qui l'avait dit, l'amour est aveugle. C'est lui qui l'a. On l'entend souvent, n'est-ce pas? L'amour est aveugle. Mais j'ai bien aimé parce que, en lisant un livre, j'ai vu Simon Signoret. C'est comme s'il a répondu à Platon. Voilà ce qu'il dit. Il dit, les secrets du bonheur en amour, ce n'est pas d'être aveugle, mais de savoir fermer les yeux quand il faut. Quand il faut. Pour que nous puissions manifester ce que nous ressentons pour l'autre personne. Mais quand il faut. Parce qu'il y a des moments où il faut dire les choses. Et en disant ces choses, nous manifestons notre amour. Même si la personne il ne mérite pas. Voilà pourquoi c'est très important que dans notre cœur, il y ait cet amour, l'agapé. C'est lui qui, l'amour qui donne. L'amour qui donne sans attendre en retour. Hein, voilà pourquoi Jésus, dans un des passages, nous dit, lorsque vous voulez inviter quelqu'un, n'invitez pas ceux qui peuvent vous rendre, mais allez dans les places. Prenez tous ceux, les pauvres, ceux qui ne peuvent pas vous rendre. Alors là, vous aurez du mérite. Car je peux inviter Roland, je sais que Roland, il m'invite en retour. Tiens, je l'invite et après lui. Non, j'invite les gens... ceux qui ne peuvent pas me rendre. C'est ça l'amour agapé. Deuxième chose qu'on va voir, c'est l'amour de Dieu pour les hommes. Qui c'est qui a manifesté cet amour? Mais c'est Dieu qui l'a manifesté cet amour. Il a manifesté cet amour en Jésus-Christ pour des êtres qui ne méritaient rien, qui n'attendent rien, et Dieu n'attend rien en retour. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et ça depuis le commencement par Caïn, vous vous en souvenez, Caïn, il a voulu donner à Dieu les choses meilleures qu'il avait dans sa propre vie. Mais Dieu, il a refusé. Car que pouvons-nous donner à Dieu? Alors, l'amour de Dieu pour les hommes. Il nous est dit de cet amour dans ce grand verset que tout le monde connaît, dans Jean 3, 16, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, encore, c'est le mot « agapé » qui donne... hein, ce verbe. Et il peut être utilisé comme Dieu, il donne, il n'attend rien en retour. Et vous savez, on peut se demander, mais, on pas se demander seulement, mais on peut se réjouir de savoir qui est celui qui donne. Et ici, le sujet du verbe, c'est Dieu. Et on peut se demander, qui est Dieu? Il y a Anselme de Canterbury, Hein, au premier siècle, voilà ce qu'il a dit de Dieu. Qui c'est qui est Dieu? Il est le créateur du ciel et de la terre, de la nature, des animaux, des êtres humains, comme vous et moi. Il est cet être tel qu'on ne peut en recevoir, on ne peut en trouver de plus grand. Le Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omnipotent, l'Omniprésent, eh bien, c'est Dieu-là. Il a tant aimé le monde, il m'a tant aimé, il vous a tant aimé, qu'il a donné sans attendre un retour. Je vous l'ai déjà dit, beaucoup de gens ils disent « Ah, j'ai cherché Dieu depuis longtemps ». Ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu, c'est Dieu qui est venu nous chercher. Pourquoi? Parce qu'il a cet amour qui n'attend rien à retour à donner. Et dans Romains, il nous est dit, mais Dieu a déversé son amour pour que nous puissions le mettre en pratique. Le mot agapé, si Dieu n'entre pas dans notre cœur, nous ne pouvons pas le mettre en pratique. Parce que c'est un amour qui vient de Dieu. Et c'est ça qui est très important. Et je me suis un peu, j'ai un peu étudié ces versets et je me suis posé des questions et j'ai vu l'origine de la rédemption, l'origine de notre libération. Qui sait? Il nous est dit, Dieu a tant aimé. C'est lui, tout est parti de lui, cet amour qu'il a eu envers l'humanité. Et pourtant, nous ne méritions pas, hein. Vous savez, Adam et Ève, il lui a dit, hein, voilà, je te mets dans un endroit où tu as tout. Mais je veux voir votre obéissance. Alors écoutez, il y a un arbre au milieu du jardin, vous ne devez pas manger les fruits. C'est pas que cet arbre, il était mauvais, non. Mais il a dit, vous ne mangerez pas ces fruits-là. Pour mettre à l'épreuve. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, parce qu'il a dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Lorsqu'ils ont mangé, Ève, il l'a donné à son mari, ils ont mangé, ils ne sont pas morts. Mais ils sont morts spirituellement. C'est-à-dire, cette communion qu'ils avaient avec Dieu, il a été rompu. Et Dieu, au lieu de les condamner, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en route cet amour qu'il avait en lui, cet agapé qu'il aime donner sans attendre un retour. Et il nous a dit, ce verset Jean 3, 16, il nous a montré toutes ces choses-là. Il a donné et ils ont reçu. L'objet de la rédemption, dans ce verset, c'est quoi? C'est le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il ne dit pas que tout le monde est sauvé. Non, il dit qu'il a aimé le monde. C'est-à-dire, il aime, Dieu désire que tous soient sauvés. Tous, ils arrivent à la connaissance de Jésus-Christ. C'est le souhait de Dieu. Et ceux qui croient en Jésus-Christ, il les sauve. Ceux qui ne croient pas, ils l'ont voulu. Ils ne veulent pas obéir à Dieu. Ceux qui ne se tournent pas vers Jésus-Christ, ils sont perdus. On l'a bu vendredi pour ceux qui étaient là. J'ai lu quelque chose à ceux qui étaient présents de ce qu'une éminence, soi-disant homme, il a dit. Il dit, l'enfer n'existe pas. Et je ne vous dis pas qui c'est, hein, mais il est vraiment imminent. Hein. Je vous le dis, c'est le pape. Hein. Il a dit, l'enfer n'existe pas. Voilà. Adam et Ève, ils n'existent pas, c'est de la légende. Pourquoi? Parce qu'ils croient dans l'évolution. Mais nous, nous croyons dans un Dieu créateur. On vient de le voir, créateur de toutes choses. Quel est le plan de la rédemption? Quel est le plan de ce verset? Mais il nous est dit, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Il a donné sans attendre un retour. C'est ça le mot agapé. C'est ça le mot agapé. Hein? Et la portée de cette délivrance, c'est quoi? Il nous a dit, quiconque, pas si tu as de l'argent, si tu es pauvre, si tu es riche, si tu es noir, si tu es blanc, quiconque, il n'y a pas de différence pour Dieu. Il veut que tous y soient sauvés. Et tous ceux qui se tournent vers lui, ils sont sauvés. C'est ce qu'il nous dit. Hein? La condition de cette délivrance, de cet amour de Dieu, la seule chose qu'il demande à Dieu, c'est quoi? Quiconque croit en lui. Il ne demande rien. Il dit seulement, c'est lui qui croit. D'ailleurs, dans la parole, je vous l'ai dit plusieurs fois, hein, il nous a dit que Dieu, il nous montre dans la parole que nous sommes des pécheurs, que nous sommes condamnés, et que si nous restons comme ça, nous serons jugés. Mais il nous dit qu'il désire nous sauver. Et pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ. Alors tous ceux qui croient en Jésus-Christ, Dieu, il les sauve. Il faut seulement nous devons croire en cela. Pourquoi je peux dire que je suis sauvé? Car je crois que Dieu, il m'a dit, crois en Jésus-Christ et tu es sauvé. C'est ça l'assurance que nous avons. Jésus-Christ, c'est l'ancre de mon salut. Vous savez, un bateau, lorsqu'il est dans l'océan, qu'est-ce que c'est qu'il peut le retenir? S'il jette l'ancre, l'ancre ne bouge pas. Il peut arriver n'importe quoi si l'ancre, il est là. Et notre ancre à nous, c'est Jésus-Christ. C'est lui notre assurance. Voilà pourquoi il manifeste toutes ces choses-là. Et le résultat de cette délivrance, de cet amour de Dieu, dans ce Jean 3,16, c'est quoi? Il nous a dit clairement, afin qu'il ne périsse point, qu'on ne meure point. Mais est-ce que nous mourons? Ben oui, nous mourons. Nous mourons physiquement, mais nous ne mourons pas spirituellement. Lorsqu'on meurt, hein, nous qui avons Jésus-Christ, la vraie vie commence. La vraie vie commence. La vie qu'on vit ici, c'est éphémère. C'est passagère. Ne croyons pas que nous sommes là éternellement. Nous mourrons tous. Et pourquoi nous mourrons? Mais parce que nous sommes des pécheurs. Mais nous avons Jésus-Christ. Et alors, lorsqu'on meurt physiquement, nous montons au ciel. Pourquoi? Parce que nous avons Jésus-Christ. La vraie vie commence. Pourquoi je dis que c'est la vraie vie? Parce que la vie, on va vivre la vraie vie avec Dieu, dans les cieux. Ici-bas, oui, c'est une vie, mais on ne vit pas le vrai salut. On a le salut, mais le vrai salut, c'est lorsque nous serons avec lui dans le ciel. Et c'est cela que... Et dans le ciel, qu'est-ce qu'on va voir? La vie éternelle. Dans l'Apocalypse, il nous est dit, plus de mort, plus de pleurs, plus de souffrance. C'est ça la vraie vie, n'est-ce pas? C'est pas comme ici-bas. Hein? Ici-bas, on fait que ça. Mais si nous sommes avec Dieu, toutes ces choses-là sont terminées. Voilà pourquoi c'est très important de savoir qui nous aime. Et si nous savons que c'est Dieu qui nous aime, nous n'avons plus rien à craindre. Nous n'avons plus rien à craindre. Pourquoi? Parce que Dieu, il a pourvu dans cet amour, Jésus-Christ. Et dans Jean 13, 13-14, il nous dit, Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Qui c'est qui a donné sa vie? Pour moi, pour vous. Mais c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Hein? Et juste après cela, il nous dit quoi? Il nous dit, vous êtes mes amis. Pourquoi on est amis de Jésus-Christ? Parce que nous avons confessé nos péchés. Parce que nous nous sommes repentis. Nous ne sommes plus des pécheurs. Donc nous sommes les amis de Dieu. Les amis de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus ennemis. Voilà tout ce qu'il fait, c'est quoi? Oui, Jésus-Christ, il a donné par amour lui aussi. Le Père, il a donné, il a tant aimé. Mais Jésus, il a aimé aussi en agapé. Il n'attendait rien à retour. Et pourtant, il aurait pu. Il aurait pu. Et toi, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Est-ce qu'il aurait pu descendre? Ah oui. Qu'est-ce que c'est qu'il a retenu à la croix? Est-ce que c'est les clous? Pas du tout. C'est ce qu'il a retenu à la croix. C'est l'amour. C'est l'agapé qu'il avait pour moi, pour vous. C'est ça qu'il a tenu à la croix. Et c'est Jésus, c'est exactement ce qu'il nous a fait en mourant sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il a pris sur lui tous nos péchés. Et comme Jésus, il est humain et il était aussi divin, il a ressenti tous ses péchés sur lui. Mais pas seulement sur la croix. Il a ressenti cela aussi à Gethsémané. À Gethsémané, il était en prière, et il avait du sang qui coulait là. Pourquoi? Parce qu'il ressentait cette chose qui était les péchés. Et sur la croix, il l'a dit lui-même. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la seule fois où Dieu, il est resté en dehors de la communion avec Dieu. C'est le seul moment. Pourquoi est-ce que Dieu, il a permis ça? Parce que entre Dieu et les péchés, il ne peut y avoir de communion. Sur Jésus, il y avait tous nos péchés. D'ailleurs, il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Il l'a abandonné parce que Dieu, il ne peut pas avoir communion avec les péchés. Mais tout de suite, il est rentré en lui et il a dit, Père, reçois mon esprit. Parce qu'il savait qu'est-ce qu'il attendait. Il a donné sa vie pour chacun de nous. Hein? Son amour, et il a été plus loin même, Dieu, en nous aimant. Il nous a dit dans Jean 3, il nous a dit, voyez à quel point le Père nous a aimés. Qu'est-ce qu'il a fait? Voyez son amour. Hein? Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. Au lieu de nous juger, de nous condamner, il nous a fait rentrer dans sa famille. Alors, quelqu'un dira, mais comment on rentre dans la famille de Dieu? Jean est clair, hein? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné les droits et les pouvoirs de devenir enfants de Dieu. Comment on rentre dans la famille de Dieu? En acceptant Jésus-Christ, en croyant ce qu'il est. En croyant ce qu'il a fait, en croyant ce qu'il va faire. Parce que Dieu, dans sa parole, il nous montre ce que nous étions, ce que nous sommes et ce que nous serons. Il nous montre ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Il n'y a rien de caché pour nous qui avons la parole de Dieu, qui faisons confiance en Dieu. Il n'a rien caché. Il nous a dit que Dieu révèle ses plans à ses enfants. Des gens, ils disent, je ne connais pas la volonté de Dieu. Si tu ne connais pas la volonté, c'est parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Dieu, il dit, ô homme, je t'ai fait connaître ce que le Seigneur, ce que l'Éternel, il demande de toi. Il nous l'a dit, tout est marqué. Voilà pourquoi c'est très important ces choses-là. Nous sommes enfants de Dieu. Et on l'a vu ce matin, hein? Je peux dire, je suis enfant de Dieu. Pourquoi est-ce que je peux dire que je suis enfant de Dieu? Parce qu'en acceptant Jésus-Christ, j'ai le Saint-Esprit qui vient habiter en moi. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il nous le dit, Paul. Hein? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Qui c'est qui habite le temple de Dieu? Mais c'est Dieu lui-même. Pourquoi est-ce que je peux dire que je suis enfant de Dieu? Parce que l'Esprit, il me dit, tu es un enfant de Dieu. On ne peut pas dire que je suis enfant de Dieu si je n'ai pas l'Esprit. Si je le dis, c'est parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. C'est lui qui me dit, et il me dit même d'appeler Dieu Père, Abba. Comme beaucoup, même ici, ils appellent Dieu Papa. Mais voilà. Papa. Ça, c'est l'intimité qui nous lie avec ces grands dieux. Oui, Dieu, il nous a donné cet amour. Et il n'attend rien en retour. Mais qu'est-ce que pouvons-nous donner à Dieu? Qu'est-ce que pouvons-nous donner à Dieu? Il y a dans le proverbe, il dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » C'est ça que Dieu demande. Donnons-lui la possibilité de nous diriger. C'est là qu'il désire. Il a tant de bénédictions que Dieu il désire nous donner. Et si nous ne les avons pas, c'est parce que nous ne nous mettons pas entre les mains de Dieu. C'est ça le vrai sujet. L'agapé. L'amour qui donne sans recevoir. Alors cet amour, l'agapé, comment est-ce qu'on peut le vivre au quotidien? Parce que c'est ça qui nous intéresse, n'est-ce pas? Comment le vivre au quotidien, dans la vie quotidienne? Premièrement, pour ceux qui sont mariés, il faut le vivre au quotidien dans nos mariages. Hein? Parce que Jésus il nous a dit, « Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Marqué, il ne dit pas ça aux femmes. Hein. Il dit ça aux maris. C'est ça notre devoir. D'aimer comment? Comme Christ a aimé l'Église. Comment est-ce que Christ il a aimé l'Église? Avec l'amour agapé. Il s'est donné sans attendre retour. Et c'est ça que nous devons faire. De montrer tout cet amour. Hein? L'amour de Christ pour les hommes, c'est le modèle que nous devons avoir. Et ce modèle, nous devons l'exprimer, pas seulement dans nos mariages, mais tout autour de nous. Vous savez, au premier siècle, Tertullien, il nous dit ça, en regardant les chrétiens, il disait, voyez comme ils s'aiment. Est-ce que pouvons-nous aujourd'hui dire ça, des chrétiens? Aujourd'hui, on vit des difficultés partout. On aime ceux qui nous aiment. On n'arrête pas de parler contre nos frères et sœurs, de calomnier nos frères et sœurs. Et ensuite dire, oui, je t'aime, mon frère. Il y a dans les églises, pas spécialement ici, hein, je vous l'ai déjà dit, il y a des gens qui ne se disent même pas bonjour, ou qui changent de couloir lorsqu'ils les voient arriver. C'est pas cet amour-là, c'est pas l'amour agapé. C'est pas l'amour agapé. Hein? Et dans ce texte des Corinthiens 13, qu'on a lu tout à l'heure, il nous montre l'inutilité de tout ce que nous faisons si nous n'avons pas l'amour. L'inutilité, il nous a dit, hein, parler en langue. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, je parle en langue. Mais ils n'aiment pas les autres. Ah, toi, tu ne parles pas en langue, tu n'es pas sauvé. Si on parle en langue, mais on n'aime pas son frère, ça ne sert à rien. Le don des prophéties, on peut soi-disant prophétiser, quoique on ne prophétise plus aujourd'hui. Il n'y a plus de prophètes. Les derniers prophètes, toutes les prophéties, nous les avons dans la parole de Dieu. Dieu nous a révélé tout ce que nous devons savoir. Oui, mais tu te prophétises quelque chose, mon frère. Oui, ça m'est arrivé à la maison de la Bible, à CLC. Une femme il s'approche, m'a dit, j'ai une prophétie pour toi, mon frère. Il m'a dit, ah bon, qu'est-ce que c'est? Dieu t'aime. Ben, je le sais qu'il m'aime. Pas besoin de toi pour me le dire. Je ne lui ai pas répondu comme ça. Hein? Hein? Mais, voilà. La prophétie, hein? Avoir de la science, connaître toutes choses. Connaître toutes choses, on l'a vu ce matin et on l'a vu aussi mercredi pour ceux qui étaient là, pour qu'on puisse connaître. Il faut avoir l'Esprit de Dieu. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'arrive pas à comprendre, surtout la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont très intelligents, qui peuvent comprendre beaucoup de choses, mais ils ne comprennent pas ce que Dieu dit dans sa parole. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit, parce qu'ils ne se laissent pas diriger par lui. Toute, et aussi, toute connaissance de Dieu. On dit, ah, je connais Dieu. Mais comment est-ce que tu connais Dieu? Comment est-ce que tu connais Dieu? Je peux le dire, je connais Macron. Hein? Ben oui, mais vous aussi, vous connaissez. Mais ce qui compte connaître Dieu, c'est le connaître intimement. Avoir eu une relation avec lui. C'est ça, connaître quelqu'un. Et nous avons eu cette relation. Où? À la croix. C'est là que nous avons connu Dieu. C'est là que nous avons connu le vrai amour de Dieu. Hein? Et il nous est dit aussi que le vrai amour, hein, l'agapé, il a quoi comme caractéristique? Il prend patience. Qui sait qu'il y a beaucoup de patience ici? Hein, aux plus petits mots, on s'enflamme. Mais le mot agapé, il prend patience. Hein? Il rend service. Il n'est pas jaloux. Il évite les bavardages, les vantardises, la vantardise. Ah, moi, c'est un peu comme les pharisiens, hein? Moi je donne, je ne suis pas comme celui-là, regarde-le tout au fond, là. Je ne suis pas comme lui, moi. Moi je donne la dîme, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Oui, mais de l'amour, qu'est-ce que tu en fais de l'amour? Il ne s'emporte pas. Imaginez-vous si Dieu, il s'emporte. Et nous tombons dans les péchés, n'est-ce pas? Si chaque fois Dieu devait s'emporter. Mais Dieu, il pardonne. Et c'est des points positifs. Mais il y a aussi des points négatifs. Les positifs, c'est quoi? Il dit, il pardonne tout. Pourquoi? Parce que Dieu nous a pardonnés, n'est-ce pas? Il pardonne tout. Il a confiance. Il croit. Hein? Il voit l'avenir. Il envisage l'avenir que Dieu il lui donne, malgré qu'il y ait beaucoup de difficultés dans sa vie. Jérémie 31, 17. Ça, c'est un verset que vous devez connaître par cœur. Hein? L'Éternel te dit qu'il y a de l'avenir pour toi. Il a de l'avenir pour toi. Pour ceux qui le connaissent, l'avenir, quel est l'avenir? Ben, là-haut, avec lui. Avant de les connaître, moi, je me posais, je n'étais pas quelqu'un de bien. Et je me disais, parce que je me voyais, hein, je me disais, Aldo, qu'est-ce que tu vas être dans 10 ans? Si tu continues comme ça. Hein. Mais là, le Seigneur, il me dit, maintenant que j'ai Jésus-Christ, il me dit, j'ai de l'avenir pour toi. Ne t'occupe pas de ce que tu es en train de vivre, car la vraie vie, c'est là-haut. Ce n'est pas ici-bas. Ici-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien ici-bas. La vie que nous menons ici-bas, encore une fois, elle est vaine. Nous sommes là pour 40, 50 ans, et après, on doit mourir. On doit mourir. C'est obligé. Hein? Et vous savez, c'est si on met en pratique cet amour de Dieu, l'agapé, il ne peut en résulter que du bonheur. Que du bonheur, que du plaisir. Une vie paisible. Jésus, lorsqu'il était ici-bas, il a mis en pratique tout cela. Et pourtant, il aurait pu agir différemment, hein, parce qu'il en avait les moyens. Mais pourtant, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été comme un agneau muet qui amène à la boucherie. Il savait où il allait. Il aurait pu dire, mais je suis innocent, j'ai aucun péché à moi, j'ai rien fait pour personne. Il n'a pas ouvert la bouche. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui cet amour agapé qui donne. Il n'attend rien en retour. Il savait qu'il devait donner sa vie. Il savait toutes ces choses-là. Parce qu'en lui, en tant qu'homme, il avait cet amour agapé. Et c'est exactement ce qu'il nous demande à chacun de nous, pour que nous puissions mener une vie paisible, une vie agréable. Hein? Et en plus, vous savez, l'amour que Dieu nous demande de mettre en pratique, l'agapé, il ne coûte rien. Il n'y a pas avec de l'argent. Il ne coûte rien. Comme on dit, un sourire ne coûte rien, n'est-ce pas? Si on met en pratique l'amour de Dieu, encore une fois, cet amour, il va nous donner cette paix. Et tout ça, il vient de qui? Du Père, si nous avons Jésus-Christ. Et c'est à cela que nous devons regarder. Pour que cet amour, nous puissions le mettre en pratique. Le Seigneur, il nous l'a dit. Hein? Hein? Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. C'est ça le commandement nouveau dont il a parlé le frère dimanche dernier. Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau? Parce que l'Ancien Testament, il disait cela. Mais lui, il a dit, voici le commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Et nous devons agir avec le même état d'esprit, avec le même amour. Nous donner sans attendre un retour. Servir sans se dire, mais qu'est-ce que je vais en recevoir? Pourquoi? Nous devons imiter l'amour de Dieu. Et il nous a dit, en regardant la croix, nous pouvons dire, hein, comme il nous a dit, voyez de quel amour Dieu nous a aimés. Il a donné son Fils. Est-ce que serions-nous prêts à donner notre Fils? Si une voix, il va dire, offre-moi ton Fils en sacrifice. Ton Fils, son unique, mais Dieu, il l'a fait. Et tout ça pour qui? Pour des êtres iniques comme nous sommes. C'est ça l'agapé. L'amour qui se donne. L'amour qui n'attend à rien en retour. Que les seigneurs ils puissent nous aider à vivre cet amour tout autour de nous, pas seulement dans l'église, mais partout. pour que les gens, ils puissent, comme je vous ai dit, il avait dit Tertullien, voyez comme ils s'aiment. Que les gens, en rentrant ici dans son église, dans notre église, ou dans toutes les églises, ils puissent voir cet amour. Ils puissent se demander, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui leur a donné cet amour? Cet amour, il ne peut venir que de Dieu, car c'est l'amour agapé. Hein? Que le Seigneur nous aide à mettre en pratique cet amour, car nous l'avons de notre cœur. Ne disons pas, oui, mais je ne le connais pas. Si nous avons Jésus-Christ, nous avons cet amour à nous, à chacun de nous, de le mettre en pratique. Et tout ça, encore une fois, par la grâce de Dieu. Amen.